France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Aurélie Dupont. Vers 19h45, le son du jour, des cabeza colado a chao d'Ana Lua Caiano. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier pour son dernier épisode au Japon, à la Villa Kujoyama. Elle nous fera visiter ce soir une brasserie de saké à Kobe, puis ce sera l'heure des au revoir dans une machiya, maison en bois typique des centres-villes japonais. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Élise Le à la prise de son. Bonsoir Aurélie Dupont.
Bonsoir.
Vous venez de publier « N'oublie pas pourquoi tu danses » aux éditions Albin Michel. Le livre est sorti hier. Vous vous y racontez, c'est ce qu'on essaye de faire aussi chaque soir avec nos invités, refaire une partie du parcours, des moments importants, de la naissance de la vocation, à la formation, à la pratique de leur art. On retrouve bien sûr tout cela dans les pages de ce livre passionnant. On y reviendra bien sûr. Nous, on revient souvent au départ à l'enfance, forcément. Alors, un père professeur de médecine, chercheur, puis chef de service à Necker, mère infirmière par vocation, vous y insistez. Et vous, l'enfant sandwich, hein, je reprends vos mots, la deuxième d'une sororie de trois. Une mère qui ne manque jamais de vous rappeler combien vous étiez laide à la naissance, hein, ce qui
c'est
fait
vrai,
toujours plaisir. Mais une mère qui avait elle-même des parents d'une grande dureté. Mais par contre, la douceur, vous la trouvez auprès de votre grand-mère paternelle, Simone Madouce. Elle a été très importante.
Oh, incroyable.
Le travail de votre père qui vous amène à vivre 2 ans aux États-Unis, vous découvrez une passion pour le piano. J'aurais pu recevoir la pianiste Aurélie Dupont aujourd'hui, mais non. Vos parents ne souhaitent pas vous inscrire à un cours de piano. La musique, elle est pourtant là. Elle a une grande place dans votre vie. Vous chantez avec vos sœurs tout près d'ici, tout près de la maison de la radio, à l'église des orphelins d'Auteuil, notamment. Mais c'est une toute autre musique qui va marquer cette jeunesse. Une chanson que vous aviez envie d'écouter ce soir, et c'est par elle qu'on commence cette petite Madeleine.
Empty belly lies.
Alors cette chanson, vous avez eu envie d'écouter ce soir, Aurélie Dupont, figure dans la bande originale du film Annie, réalisé par John Huston, sorti en 82, un film que vous découvrez, je pense, à la fin de votre séjour aux États-Unis.
C'est ça.
Vous avez quoi, 9 ans ?
Ouais, j'étais toute petite, même un petit peu avant.
Un petit peu avant, ça provoque quoi chez vous ?
Bah vous voyez, j'arrête pas de danser là depuis quoi. Depuis qu'on l'entend, ça me provoque. Bah déjà, c'est un souvenir incroyable, presque mélancolique, mais très extrêmement joyeux malgré tout. Et c'est quand j'ai vu cette Aileen Quinn, l'actrice là, je me suis dit, je veux être elle. C'est ça que je veux faire. Il y a une espèce de révélation comme ça, extrêmement joyeuse. Où je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Alors je savais pas très bien, donc j'ai posé des questions. On m'a dit ça, c'est une forme de comédie musicale filmée où on apprend à chanter, on apprend à faire des claquettes, on apprend à jouer la comédie. Et je me disais, mais moi, je veux apprendre tout ça.
C'est un métier.
C'est un métier.
Vous l'avez montré à vos fils, ce film ?
Je l'ai montré, oui. Un été, curieusement, on loue une maison et dans les DVD, il y a celui-là. Donc, je suis prise d'une émotion incroyable. Et ils ont trouvé ça long. Ils n'ont pas tellement aimé.
Et vous ?
Moi, j'ai revu. J'étais très émue.
Ouais.
Ouais.
Alors, j'avance dans le temps et je reviens rue La Fontaine au cours de gymnastique du mercredi, parce qu'il y a une professeure, Claudine Anglard, qui fait une sorte d'initiation à la danse et qui fait remarquer à votre mère vos aptitudes hors normes, qui lui conseille de vous faire suivre de véritables cours de danse. On lui indique le cours de Liane Deydé. Vous vous y rendez, puis à la fin de l'heure, en effet, Liane Deydé confirme l'intuition de Claudine Anglard, demande à votre mère son accord pour vous préparer au concours d'entrée à l'école des Petits Rats, de l'Opéra de Paris. Vous avez 9 ans. Donc c'est maintenant ou jamais.
C'est ça.
Et ce sera maintenant, mais il reste que 3 mois avant le concours, donc des cours intensifs avec Liane Deydé. Et puis vous faites partie, Aurélie Dupont, de la quinzaine d'élus sur 1500 postulants au départ, ce que vous savez pas encore. C'est que les années qui vont suivre vont être très dures. Votre professeur, Liane Deydé, elle le savait bien, pourtant on va l'écouter sur France Inter en 71.
Pour le ballet classique, il ne faut pas commencer très très tôt. J'ai commencé à l'âge de 9 ans. On doit commencer entre 8 et 12 ans à peu près, c'est très bon âge, parce que les jambes doivent déjà avoir une certaine longueur. On ne doit pas crisper le muscle étant trop petit. Alors j'ai débuté directement à l'Opéra de Paris sans avoir même vu la danse avant, même savoir ce que c'était. C'était atroce et je détestais ça.
Non, c'est vrai.
Oui, et ma maman m'a absolument exigé que j'y aille parce qu'elle aurait voulu faire une carrière artistique, mais c'était très très mal vu, disons à son époque.
L'importance de pas être une époque bien lointaine.
Non, mais en fait, tout de même, elle jouait merveilleusement du piano et mes grands-parents n'ont pas voulu qu'elle monte sur les planches. Mmh. Alors elle m'a prise, elle m'a emmenée à l'opéra sans même me demander. Mais j'étais, disons, un peu le gabarit d'une danseuse, c'est-à-dire des longues pattes, comme on dit, un petit buste et une petite tête. Non, j'espère qu'il y a quand même un tout petit peu de cervelle, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Et voilà, je suis arrivée à l'opéra et on a commencé à me torturer, à me tordre les jambes en dehors, à tirer sur tout ça. Et c'était absolument atroce, je dois dire. Et je n'aimais pas ça du tout, du tout.
Liane Deydé.
Merci pour cet extrait, c'est formidable.
Alors ces années d'école, en effet, pour vous Aurélie Dupont, vous les racontez d'abord avec grande précision dans votre livre, dans toute leur dureté, jusqu'à cette phrase ajoutée par Claude Bessy, directrice de l'école, sur la feuille des résultats du concours quand qui vous voit entrer dans le corps du ballet. À condition de garder la ligne conforme aux règles de Monsieur Rudolf Nureyev, vous apprendrez plus tard que Claude Bessy avait voulu votre renvoi, mais tous les autres membres du jury de la compagnie, vous avez élu première à l'unanimité. Mais ces 6 années d'école, ce livre, il regorge quand même de faits extrêmement précis. Alors, est-ce qu'ils sont gravés en vous ? Est-ce qu'il y avait un journal intime sur lequel vous êtes basé ? Comment vous avez fait pour écrire cela ?
Il y avait les deux. Déjà, j'ai une très bonne mémoire, où j'ai une mémoire sélective. Et ces moments-là, je m'en souviens très bien. Et surtout, j'avais ce petit cahier à spirale que j'ai toujours gardé. Et qui était un cahier dans lequel j'écrivais tout de ma petite main d'enfant avec mon écriture bien ronde. Donc j'ai eu juste à relire et les souvenirs sont revenus immédiatement.
Ça a provoqué quoi de relire ces cahiers ?
Vous savez, j'ai pas été. Moi, j'ai écrit ce livre dans la joie, mais vraiment, c'est-à-dire que je n'ai pas pleuré devant mon ordinateur. C'était dans la joie. J'ai revécu avec grand plaisir tous ces moments fabuleux que je décris dans les livres et toutes les parties un peu plus noires, un peu plus sordides. Je m'en suis presque amusée. Mais ça, c'est le recul et la magie de la maturité, j'ai envie de dire.
Ben, j'en profite quand même pour dire que ce livre, alors, très riche d'informations, bien sûr, mais il se lit quand même avec beaucoup de plaisir, même si les choses sont racontées, sont souvent dures. Mais ça, c'est quand même dû à la grâce de votre style d'écrivain, Aurélie Dupont. C'était un désir ancien, l'écriture ?
Pas du tout, pas du tout. Mais je n'ai jamais non plus désiré diriger une compagnie. Donc il faut aller là où la vie vous porte. Et Albin Michel m'a accueilli les bras ouverts pour ce livre, et je les remercie. C'est vrai que cette écriture, j'ai pris le temps, j'ai pris un an et quatre mois à peu près pour écrire, tous les jours. J'ai été très, très sérieuse tous les jours. J'ai écrit entre 2 et 6-7 heures par jour. J'ai eu envie de l'écrire comme un ballet. J'avais envie qu'il soit musical. Vous voyez, j'avais envie que ça soit comme une épopée. J'avais envie que ça soit un roman. J'avais envie que ce livre plaise évidemment à ceux qui connaissent la danse et qui sont passionnés, mais pas que. Je voulais donner envie aux gens qui ne connaissent pas cet art de s'intéresser un peu à la vie d'une danseuse.
Bah, tout ça est parfaitement réussi. Pour parler d'une chose positive, il y a en première division, dernière année de l'école, ces cours avec Martha Graham qui agissent sur vous comme une sorte de révélation, notamment au travail sur la respiration. On reparlera de technique, mais votre entrée dans la compagnie n'est pas non plus, toujours pas un enchantement, parce que vous êtes le plus souvent cantonné au remplacement, aux doublures. Hein, si quelqu'un se blesse, vous faites partie de la liste, vous êtes sur le banc de touche, quoi. Et les remarques sur votre physique continuent jusqu'au jour où vous allez voir Brigitte Lefebvre. À ce moment-là, elle n'est pas encore directrice de l'école, elle est administrateur de l'Opéra de Paris, pour lui dire que c'est fini, vous allez plus tolérer ses commentaires.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais régulièrement des commentaires ou des réflexions sur mon poids. Il m'arrivait parfois de remplacer et de bien remplacer. Remplacer, ça veut dire qu'on vous dit une heure avant, tu vas remplacer une telle, et il ne faut pas se tromper. Hein. Quand c'est sur un lac des cygnes, je peux vous assurer que si vous n'avez pas dans le bon sens, ça se voit. Et je me souviens de cette réflexion, et d'ailleurs je le dis dans mon livre, on m'a dit « t'as bien remplacé, mais t'es trop grosse ». Et ça, je trouvais que c'était vraiment dur. Donc j'ai eu ça un peu trop régulièrement à mon goût. Et à partir d'un certain moment, je crois que j'avais 18-19 ans, je suis allée voir donc Brigitte Lefebvre et je lui ai dit « s'il vous plaît, juste laissez-moi tranquille, arrêtez de me dire ça toute la journée, juste laissez-moi travailler et puis tout ça, ça va bien se passer
». Ouais, elle a pris acte et elle a aussi admiré votre...
Mon audace et mon courage.
Votre courage, c'est vraiment du courage, hein, parce qu'il faut aller voir aux étages de la direction. Alors, peu de temps après, un soir, vous êtes encore sur la liste des remplaçantes, vous décidez de partir en douce pour aller voir le sac du printemps de Pina Bausch qui se joue au Théâtre de la Ville. Alors, sans évoquer encore votre rencontre avec la chorégraphe, on en fera dans quelques minutes, qu'est-ce que vous avez ressenti ce soir-là, assise dans le public ?
C'était fou. C'était fou, et quand j'ai fait le mur, c'était un petit peu avant que je sois allée... Voir Brigitte Lefebvre. Donc j'étais vraiment très très jeune et je sortais de l'école de danse et j'avais intégré la compagnie quelques mois après. Et c'est vrai que les codes de beauté qu'on m'avait inculqués, qu'on m'avait dans le moule dans lequel je devais rentrer à l'école, c'était la petite danseuse classique, filiforme, plutôt fine, plutôt le muscle étiré, tout bien, le chignon bien comme moi ce soir, bien les cheveux bien tirés. Et cette représentation, cette chorégraphe, j'en avais entendu parler. J'étais extrêmement curieuse déjà d'autres formes de danse. Et je vois le Sacre du Printemps. Et ce que j'ai ressenti quand j'ai fait le mur et que je me suis retrouvée tout en haut de ce théâtre que j'adore toujours aujourd'hui. Et quand j'ai vu ces danseurs, j'ai réalisé que c'était beau et qu'il y avait une autre forme de beauté que celle qu'on m'avait annoncée.
Qu'il y avait des corps extrêmement différents sur le plateau.
C'était incroyable, une révélation, mais je me suis sentie presque bête. J'ai vu des hommes et des femmes. J'ai pas vu des danseurs et des danseuses. Les femmes étaient belles, elles avaient des formes, elles avaient des poils sous les bras, elles se jetaient dans cette terre, elles étaient belles, et les hommes extrêmement sensuels. Il y avait de la sensualité, de la sexualité, il y avait parfois de la laideur que je trouvais extrêmement poétique. Et ça a été une révélation. Je me suis dit, en fait, c'est ça aussi la beauté. La beauté n'est pas que ce qu'on imagine, parce que maintenant, moi, je peux même pas parler de beauté, puisque la beauté, pour moi, c'est ça. La beauté, pour moi, c'est la vérité, surtout pour un danseur, d'être vrai avec son corps, avec sa façon de dire les choses, vrai et vulnérable par rapport à une fatigue. Et Dieu sait que le Sacre du Printemps, je le découvrirai plus tard après, est fatigant physiquement. Donc, cette vulnérabilité, en fait, les a rendus beaux. Et ça m'a complètement fait vriller. En fait, je me suis dit, il faut que je revoie tous mes codes, que je réfléchisse.
Alors, comme la vie est bien faite, on va s'arrêter sur quelques moments importants de votre parcours. Il y a des années très très riches, cette fin des années 90. D'abord, 96, rendons hommage à Roland Petit qui vous confie le rôle de la jeune fille dans Le Loup. C'est un des premiers à vous faire confiance.
Rôle magnifique.
Et puis, la même année, Angelin Prège-Locage vous choisit pour le duo Annonciation. Et là, alors là, c'est encore un nouveau pan qui s'ouvre à vous, Aurélie Dupont. Vous retrouverez bien sûr Angelin Prège-Locage dans Casanova, dans Le Parc, de très nombreuses fois, dans Siddhartha. Avant de parler de cette rencontre, on va écouter un court extrait de cette émission où je recevais Angelin Prège-Locage, c'était en mars 2022.
Je crois que, par exemple, pour aborder des ballets narratifs, c'est vraiment important de renouveler la matière même chorégraphique, le vocabulaire, ça veut dire la grammaire, la syntaxe même, et de pouvoir... à chaque fois, essayer d'inventer quelque chose qu'on n'aurait pas fait et qui soit pas ni dans le mimétisme ni dans la redondance avec ce qui est raconté dans le conte en fait. Et l'expérience de pouvoir d'avoir ces moments de laboratoire, de recherche pure, c'est comme en science. Hein. Il y a la recherche fondamentale et puis il y a la recherche appliquée. Ouais. C'est-à-dire que la recherche fondamentale, c'est des gens qui travaillent sur des équations, des concepts, etc. Et puis, tout ça devient un jour de la technologie, des médicaments, voilà. Mmh. Eh bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que tout le travail que je peux faire d'une façon de recherche fondamentale du mouvement, eh bien, à un moment, nourrit ces contes de fées, ces ballets narratifs qui vont apporter peut-être quelque chose...
Qui vont soigner.
Qui vont peut-être soigner, ouais.
Quel a été l'impact de votre rencontre avec Angelin Prège-Locage, Aurélie Dupont ?
Ça a été évidemment une chance incroyable qu'il me voie et qu'il me choisisse pour ce très très joli duo. Mmh. C'est un duo avec deux femmes. J'ai adoré travailler avec Angelin, déjà parce que lui, c'est un homme que j'aime et c'est un chorégraphe que je trouve extrêmement talentueux. J'avais vu son Roméo et Juliette. Je suis allée deux fois de suite, deux soirs de suite tellement j'avais aimé. Donc j'aime ce qu'il propose. Mais surtout, ça a été le premier chorégraphe avec qui j'ai commencé la danse contemporaine et je me suis sentie extrêmement bien dans ce style. Tout d'un coup, mes défauts, ou ce que j'imaginais être des défauts physiques pour la danse classique, étaient presque des atouts et un avantage pour la danse contemporaine. Et donc je me suis dit, je vais faire ça en fait. Là, je me sens bien. C'était en petit comité. Angelin était là. Et c'est lui le créateur, donc c'est lui qui travaille avec nous. Il arrangeait parfois des petites choses en fonction de notre interprétation, pardon. Et du coup, je me suis, ça m'a vraiment ouvert mon imaginaire. Et à ce moment-là, vraiment, je crois que je me suis dit, oui, t'as envie d'être danseuse étoile, mais oui aussi, t'as envie de faire de la danse contemporaine. Mmh. Donc j'ai eu l'impression d'avoir une double rue.
Encore une ouverture.
Ouais.
Et puis, comme les rencontres s'enchaînent, elles sont bien sûr différentes, c'est en 97 que Pina Bausch vient monter le Sacre du Printemps au Palais Garnier. Elle vous choisit pour être une des élues. C'est un choix voilà, multiple, il faudrait trois à incarner ce rôle de l'élu. Avant de parler d'elle, là aussi, on va... quand même avoir le plaisir d'écouter Pina Bausch sur France Culture en 90.
Ich meine, es sind irgendwo Leute, wo ich irgendwo spüre, die was Starkes fühlen, sich vielleicht
nicht formulieren. Je pense qu'il y a quelque part des gens chez lesquels je sens qu'ils sont si sensibles et si forts que leur tendance est au fond triste. Et dans la tendance n'est pas quelque chose de superficiel. Mais le travail ensemble est souvent très difficile. Mais d'une certaine façon, j'aime ces gens. Mais souvent, ils pensent que je ne les aime pas, que je les rends laids. Et moi, je pense que je les rends beaux. Parce que pour moi, beau, ça veut dire honnête. Ça veut dire quelque chose d'intérieur, profond. C'est très différent. Ça se frotte, ça se contredit. Et je pense qu'ils m'aiment quand même. Parce qu'ils vont toujours plus loin. Je pense qu'on doit toujours recommencer avec l'homme. Et pas par quelque chose d'utopique.
Alors vous écrivez ces phrases très fortes, très belles dans votre livre, Aurélie Dupont, à propos de Pina Bausch. Elle m'a délivrée, elle m'a sauvée. Qu'est-ce qu'elle a vu en vous ?
Elle m'a même réparée, j'écris. ce qu'elle a réparé en moi et ce qu'elle a vu en moi, je crois qu'elle a vu exactement ce qu'on vient d'entendre. Elle pourrait presque parler de moi. Elle a vu une jeune femme un peu paumée, à la fois sensible, fragile et forte, une espèce de complexité comme ça, un doux mélange de deux forces éloignées. Et je pense qu'elle a vu une espèce de froideur qu'elle a analysée parfaitement, intelligemment, en disant voilà, je pense que c'est quelqu'un de plus pudique que de froid, et il faut l'accueillir et il faut l'envelopper. Et donc elle a répondu à une question essentielle que je me posais à cette période-là, et je me disais je ne prends pas le bon chemin. J'étais extrêmement technicienne, j'étais une bonne petite danseuse classique, un peu robotique, parce que ça me protégeait, parce qu'à partir du moment où on a de la technique, on est inattaquable. Sauf que j'étais première danseuse et que j'étais cette espèce de petit robot sans cœur, et je me disais mais en fait c'est pas moi, tu te trompes complètement de chemin. Et cette rencontre avec Pina est arrivée dans un timing parfait où elle a vu un peu la détresse, elle m'a scannée parce qu'on parlait pas du tout. Hein. Elle parlait très très peu, Pina. Mais le jour où elle s'est levée de sa chaise et qu'elle a traversé le studio pour venir me voir et me dire et me demander est-ce que tu sais pourquoi je t'ai choisie ? Évidemment, j'étais tétanisée, j'ai pas su mettre un mot devant l'autre. J'ai dit non et elle m'a dit je t'ai choisie pour ta fragilité, c'est ça que je veux voir. Tu te fais mal quand tu danses. Donc il y avait une façon presque de me faire du mal, quoi, de me punir de quelque chose. Et tout d'un coup, c'est comme si elle m'avait enveloppée. Elle m'avait calmée. Elle m'avait dit ça va bien se passer avec sa voix un peu. Et sa cigarette à la main, bien sûr.
Oui, on fumait encore dans les studios à ce moment-là, comme dans plein d'endroits, comme à la radio ou ailleurs. Alors, grâce à elle, enfin, j'aime passionnément danser, écrivez-vous. Ce qui tombe bien, parce que l'année suivante, 98, vous tenez pour la première fois le rôle de Manon, dans l'histoire de Manon, chorégraphié par Kenneth MacMillan. C'est un rôle à part pour vous, comme l'a été aussi un peu celui de Juliette, que vous danserez pour le coup beaucoup plus tard, celui-là. Mais Manon, ce sera, on le sait, votre dernier ballet sur la scène de Garnier pour vos adieux. Ce que vous aimez, Aurélie Dupont, vous y revenez dans ce livre, c'est avoir une histoire à raconter, une tragédie quand même de préférence, un vrai parcours pour le personnage. Vous le racontez aussi d'ailleurs dans le livre à propos de Gisèle, il faut identifier en détail son personnage. Alors, en quoi Manon, elle est si importante pour vous ?
Elle est importante... Bon, alors, parce qu'elle a une histoire et que ce ballet-là a du sens dans ma vie de danseuse. Mais ce n'est pas le seul rôle qui a du sens. Mais Manon a du sens artistique pour moi parce que il y a une dramaturgie à élaborer qui est formidable. Et moi, c'est ça que j'adorais et c'est pour ça que je dansais. C'est-à-dire raconter des histoires sans un mot et faire passer des émotions, c'est quand même le meilleur métier au monde, non? Et Manon.
C'est pas le plus simple.
C'est pas le plus simple, mais parce que c'est justement parce que c'est pas simple que c'est génial. Mmh. Et moi, j'adorais ça. C'est-à-dire qu'on commence, on est Manon à 19h30, le rideau se lève, on est belle, on est fraîche, on est désirée, désirable, et on finit à 22h30, morte dans les bras de son amoureux. C'est quand même génial. Mmh. Avec deux entr'actes de 20 minutes. Et ça recommence le lendemain. Et c'est vrai que moi, la construction de ces personnages-là, des personnages forts, et si possible des personnages qui meurent à la fin, c'est ce que j'ai préféré faire, et travailler en osmose, avec un mariage extrêmement fort avec la musique, m'inspirer de la musique, de la partition, du choix du chef d'orchestre, de jouer plus doucement, plus vite tel ou tel soir, de respirer avec le musicien, de se mettre en retrait quand la musique est chuchotée, ou au contraire d'aller franchement dans un mouvement quand la musique est forte et prend tout le théâtre. C'est exceptionnel.
Alors, l'interprétation, évidemment, elle repose sur de nombreux facteurs en danse. Parmi ceux-ci, il y a aussi les partenaires. Alors, on va écouter l'un d'eux, un de ceux avec qui vous avez si souvent dansé, Manuel Legris. Il était sur France Inter en 2009 au micro d'Yves Calvi. Vous réagirez à ses propos.
À vrai dire, quand j'ai commencé à être étoile, je pensais vraiment au côté technique. Honnêtement, hein, le côté d'interprétation, ça, pour moi, ça paraissait un peu secondaire parce que j'avais la sensation quand on est très jeune que si on danse bien et qu'on fait tous les pas et que le public est impressionné par la technique, ça suffit. Et en vieillissant, comme on perd un peu le côté technique, un peu la facilité avec le physique, tout d'un coup, on se dit « Ah, là, peut-être qu'il faut que je fouille un peu plus loin, que ça serait peut-être bien que je devienne un artiste. » Voilà, je pense pas qu'on est... Alors, on est artiste d'une certaine... On peut l'être à 20 ans, mais en même temps, je pense qu'à 40 ans, on l'est de fait.
C'est courageux de dire ça, parce que vous avouez que
Non, mais je l'avoue parce que c'est vraiment, moi je me suis aperçu, même en reprenant certains rôles que j'avais dansés dans ma prime jeunesse, que j'étais passé à côté, que j'avais simplement effleuré le sujet, je le dansais bien parce que j'avais la technique, mais par contre artistiquement, j'avais pas cherché à raconter grand chose. Je pensais que ça allait découler de simplement en faisant des jolis pas, une jolie technique, que ça suffisait.
Alors ça, évidemment, Aurélie Dupont, il y a des choses à dire, parce qu'on évoquait le ballet Le Parc tout à l'heure d'Angelin Presles-Locage, tout à l'heure, c'est un ballet que vous avez beaucoup dansé, et sur une amplitude d'années importante. Ça vous permet très concrètement d'avoir des points de comparaison entre le premier Parc et le dernier. J'imagine que c'est plus du tout la même danseuse et la même interprétation.
Ça n'a rien à voir, et même mes passages préférés du début ne sont plus mes passages préférés de la fin. C'est pour vous dire à quel point
ça bouge.
Et alors pourquoi ça bouge ? Ça c'est intéressant parce que ce que disait Manuel Legris, il a raison. Et je pense que ça vient un peu de l'apprentissage de la danse. C'est-à-dire que quand on est petit, on vous apprend des formes. On vous dit la forme, c'est ça. C'est la forme de bras ronds devant ou de bras parfaitement en arabesque. Et on ne vous parle pas de sensations. Mais quand on parle de sensations, il y a la respiration. Il y a plein de choses qui sont... Les choses provoquent. La forme, justement, quand on part d'une sensation. Et si on apprenait la danse davantage comme ça, il y aurait justement ce côté artistique qui nous serait délivré beaucoup plus jeune. Mais par rapport au Parc, je remarque que sur la longueur, je faisais de moins en moins de choses, moins en moins de choses, ça veut dire de moins en moins d'efforts, surtout dans le dernier pas 2 qui est très beau sur la musique de Mozart. Concerto numéro 23, je crois. Parce que je laissais le premier rôle à la musique. Moi, j'adore ça. Parfois, quand je danse et quand je dansais le Parc ou d'autres ballets, j'avais la sensation et je prenais mon premier rôle. Et puis parfois, j'avais la sensation d'être deuxième rôle pour laisser mon partenaire avoir le premier rôle. Et parfois, avec mes partenaires, on se retirait tous les deux pour laisser la musique avoir le premier rôle. Et dans le dernier pas 2 du Parc, pour moi, c'était la musique qui avait le premier rôle. Moi, j'étais juste, j'avais les pieds sur chaque note et l'orchestre, je le connaissais par cœur.
Oui, parce qu'il faut, évidemment, et c'est l'importance des partenaires, il faut que quand ce sont des duos, qu'il faut que vous racontiez la même histoire, que vous ayez les mêmes intentions, que vous soyez dans les mêmes temps musicaux. Ça paraît évident, mais ce qui n'est pas de fait. La musicalité, bien sûr, elle va donner l'émotion, mais ce qui est important, c'est vous l'écrivez aussi, hein, c'est la vérité du geste. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression, j'ai eu la chance de vous voir quand même un certain nombre de fois sur scène, que vous étiez de plus en plus sombre, que ça pouvait être simplement une question d'oblique de regard, un moment de suspension, et que vous racontiez de plus en plus de choses en faisant toujours moins.
C'est vrai. J'ai épuré vraiment beaucoup. Et ça, déjà, quand j'étais très jeune, j'ai épuré beaucoup ce qu'on appelle dans notre jargon la pantomime. Donc, quand on parle avec les mains, la première fois que j'ai fait Gisèle, je me suis dit, mais je peux pas faire ça en 2000 et quelques, je sais plus quelle année on était. Je me dis, non, il faut quand même un peu épurer, garder évidemment le respect de la tradition, ce que j'ai fait. Mais c'est vrai, vous avez raison, j'ai épuré pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai appris beaucoup de choses et que je savais qu'un regard un peu lointain, si possible vers le sol, donne l'impression qu'on réfléchit. Ce que je suis en train de faire devant vous, et je suis sûre que vous pensez que je réfléchis, mais je suis en train de vous parler. Donc voilà, il y a des codes comme ça scéniques que j'ai découvert et que j'ai appris. Et puis aussi, il y a la vulnérabilité. Ce que disait aussi Manu, la technique, quand on a une bonne technique, c'est montrer des jolis pas, bien faits, et surtout donner l'impression que c'est très facile. Mais quand on passe dans le côté artistique, il faut être vulnérable, il faut accepter que parfois on est fatigué. Et c'est beau de voir un artiste qui est fatigué. C'est beau de voir quelqu'un qui prend le temps ou qui est essoufflé, ou qui prend le temps de venir saluer. Il y a quelque chose un peu qui nous rend plus humains. Et du coup, et parfois ça passe mieux avec le public, parce que le public peut se dire, finalement, ils sont un peu comme nous.
Ouais, j'adore être assez près des plateaux parce qu'on entend les souffles, on entend la respiration.
C'est ça. Il faut aller dans l'honnêteté du geste. Et quand il y a l'honnêteté et la sincérité, on est gagnant. Nous, on est gagnant en tant qu'artiste parce qu'on est au plus proche de qui on est, de notre âme, de ce qu'on veut dire. Et le public prend tout.
Alors, cette sobriété, ce récit en musique et encore, j'emploie cette expression à dessein, c'est évidemment ce qui fait ce que vous disiez là, hein, la beauté, la magie de la danse. On en parlait dans cette émission avec Cédric Clapiche, mm-hmm. qui était venu au moment de la sortie de Encore, qui vous avait consacré un documentaire en 2010 et qui a filmé vos adieux à Garnier le 28 mai 2015. On va écouter un extrait de cet entretien de mars 2022.
C'est justement parce que je ne le comprends pas. C'est quelque chose qui échappe, en fait, la danse. Et ça échappe à tous les sens du terme. Parce que je pense que quand on voit quelqu'un danser, et c'est vrai dans les chorégraphies de Pina Bausch, et c'est vrai actuellement, il y a Ophélie Schechter qui fait plusieurs spectacles dans Paris. Et moi, je comprends pas pourquoi ça me touche à ce point-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais je peux pleurer, je peux rire, je peux sortir, être complètement énergisé. Et je sais pas par où c'est passé. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme le théâtre, pas du tout comme le cinéma, pas du tout comme une exposition de peinture. C'est vraiment un mode d'expression qui est assez spécial. Et franchement, je pense que j'aime parce que je comprends pas, quoi.
Mais ça fait du bien d'entendre ça, parce que moi je dis volontiers ce genre de choses. Oui. Mais du coup, ce regard qu'il a eu sur vous à plusieurs reprises, Cédric Clapiche, d'une part un documentaire, bon, la soirée d'adieu c'est encore autre chose, mais qu'est-ce que vous avez vu de vous à travers ses yeux à lui?
Le documentaire, il est très beau et je me suis sentie vraiment chanceuse de travailler avec Cédric Clapiche, hein, parce qu'il m'a filmée en tant que danseuse. Je pense qu'il a révélé quand même de mon métier dans le documentaire la grâce du documentaire. Parce que je sais qu'il avait filmé des moments où j'étais plus en danger, en répétition, ou parfois énervée, ou parfois les larmes aux yeux. Et il me demandait est-ce que je peux filmer. Je lui ai dit oui, filme. Et voilà, ça il l'a pas mis. Donc il y avait quand même quelque chose d'assez doux dans le documentaire. Mais ce que j'aime, c'est que moi, par exemple, la danse et l'art en général, j'aime bien parfois, parce que j'ai vu évidemment beaucoup, beaucoup de ballets, et j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chorégraphes et de danseurs. Mais moi, j'aime quand je sors du théâtre et que je ne sais pas si j'ai aimé. Je ne sais pas si j'ai aimé ou si je n'ai pas aimé. Ça, c'est ce que je préfère.
Ah, il y a aussi les cas où on sort, on est très énervé parce que ça nous a vraiment, on n'est pas content.
Oui.
Et cela, vous peuvent vous travailler très très longtemps.
C'est ça.
Et vous finissez par vous rendre compte que c'était absolument essentiel et génial.
Et ça m'a fait ça aussi chez des danseuses étoiles que je regardais parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont inspirée quand j'étais jeune danseuse dans la compagnie. Et il y en avait certaines, je me disais, je sais pas si j'aime comment elle interprète. Et je la revoyais un an après, je me disais, mais en fait, c'est un génie. C'était super.
Ouais, il faut du temps aussi, il faut que ça descende, il faut qu'on le digère parfois. Mais à propos de Cédric Clapiche, il était venu donc dans cette émission au moment de la sortie de son film Encore, un film qui a pour point de départ une chose que vous avez vécue, puisqu'il raconte l'histoire d'une danseuse à qui on dit qu'elle ne pourra plus danser. C'est ce que vous avez vécu vous en 99. Vous venez d'être nommée étoile 6 mois auparavant, et puis le genou est de plus en plus douloureux, et après l'IRM, on constate qu'il n'y a plus de cartilage derrière la rotule. Le cartilage, scientifique, vous savez que ça ne repousse pas, contrairement aux os. Donc un chirurgien annonce qu'il faut vous opérer, mais qu'ensuite vous ne pourrez plus danser. Vous avez choisi d'ouvrir votre livre au lendemain de cette opération, et toute la première partie, les 80 premières pages, raconte ce chemin parcouru entre l'opération et le retour sur scène. Ensuite, le livre est plus chronologique. Mais ces 18 mois, évidemment, ils sont un tournant majeur à la fois de votre vie de danseuse, Aurélie Dupont, mais aussi de votre vie de femme tout court, non ? D'être humain.
Ouais, c'était une épreuve et j'ai eu envie de commencer par une épreuve. Et aussi parce que moi j'adore les films qui commencent par la fin. Donc je pense que c'est ça qui m'a inspirée aussi, de taper fort dès le début. Mais ça a été un calvaire quand je l'ai vécu. Avec le recul aujourd'hui, je me dis que je dirais pas que c'était une chance, pas du tout du tout, parce que j'ai toujours mal et quand je vais me lever de cette chaise, j'aurai encore mal à mon genou. Donc je dirais pas que c'est une chance, mais je pense que ça m'a permis de faire de ma danse du sur-mesure. Ça m'a permis cet handicap de repenser ma danse. Donc d'être complètement consciente de ce que je faisais et de pourquoi je le faisais. Ça m'a permis aussi de profiter de chaque spectacle, parce que chaque spectacle, j'avais l'impression que c'était le dernier. Et je peux vous assurer qu'il y avait des lendemains matins, je me disais je ne peux pas marcher. Et donc aucun spectacle n'était anodin. Et ça a donné de la valeur à ma carrière et à mes choix artistiques que j'aurais peut-être pas eu ou ressenti si j'avais eu un genou valide.
Bon, il faut évidemment citer Bernard Bonnem, alias Bébert.
Ouais, Bébert.
Qui est plus qu'un kiné, c'est un sauveur.
C'est mon guide. Héros. C'est mon héros.
vous a accompagné d'une façon incroyable.
Incroyable, incroyable. Il m'a accompagné comme une personne lambda, ce que j'ai aimé, parce que il connaissait rien du tout à la danse et c'est ça qui m'a plu.
Ancien rugbyman lui-même, blessé plusieurs fois.
Oui, oui, qui a décidé d'arrêter de se blesser et de soigner les autres. Donc ça, c'était, et c'est une chose qu'il a faite extrêmement bien. Il a soigné beaucoup de sportifs. Voilà, lui, il m'a secoué. C'était très compliqué de me rééduquer parce que déjà, je voyais pas l'intérêt de me rééduquer puisque je savais que je danserais plus. Donc, j'avais pas de, le rapport à mon corps n'était plus, mon corps n'était plus mon instrument de travail. C'était un corps lambda qui avait aucune valeur à mes yeux. Plus aucune valeur. C'est affreux. Et donc il m'a remusclé et, ça me, et la, ma blessure me fait toujours mal, donc me remuscler me faisait mal, les exercices qu'il me demandait de faire étaient douloureux, jusqu'au jour où il me dit, bon ce serait quand même peut-être bien que tu retournes à l'opéra, alors que moi j'essayais vraiment de mettre ça de côté, mais mes chaussons étaient rangés, j'étais pas retournée à l'opéra, et il insiste et il insiste, et je me dis bah peut-être qu'il faut essayer. Et j'essaie, et j'y vais, et ça marche pas. Et j'ai mal au genou, et je repars. Et j'y retourne, et je me dis, c'est pas possible. Et j'ai encore mal, et je repars. Non, ça a été un calvaire pas possible. Jusqu'au jour où j'ai réfléchi, et je me suis dit, ok, pourquoi tu danses? Pourquoi tu danses? Si t'as la réponse, et que c'est une nécessité dans ta vie, alors, deuxième réflexion, comment tu peux redanser? Voilà, donc ça a été un long parcours.
Alors... Le parcours, il y aura d'autres personnes importantes ensuite, dont on n'aura pas le temps de parler de ce soir, comme Michel Renaud, comme Jérôme Robbins, comme Claudine Weyer, comme Wayne McGregor, comme Nicolas Lerich, Hervé Moreau. Mais je voudrais citer une de mes idoles, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le faire sur cette antenne, mais je m'en prive jamais, je veux parler de Bruce Lee. Qu'est-ce qu'il représente pour vous?
C'est mon guide spirituel, mon guide caché, dont je ne parle pas, j'en parle que dans mon livre. Pareil, c'est un peu... je l'ai écouté une fois... Et cette fois-là, j'étais un peu perdue avec mes problèmes de genoux. Et c'est vrai que j'ai été assez fascinée par ce qu'il disait. J'ai trouvé déjà que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, spirituel, kung-fu. Je pense que ça aurait été un danseur et un artiste exceptionnel. C'est un perfectionniste. La façon dont il parlait de son travail, il employait des mots qui étaient complètement connotés et qu'on pouvait entendre à un cours de danse. Il parlait de vérité, de sens du mouvement, d'honnêteté dans le mouvement. Il parlait de technique, de rigueur évidemment, mais il disait que dès que vous avez appris une technique, allez voir ailleurs et apprenez d'autres techniques. Donc, il disait, la vie est un combat. Je me disais, oui, c'est vrai, Bruce. C'est vrai que la vie est un combat. Donc, ça m'a parlé, ça m'a motivé. Je me suis dit, si lui est arrivé, et voilà, il m'a inspirée et je me suis rattachée à ça comme j'ai pu. Voilà. Quand on est malheureux et un peu paumé, on se rattache à des petites choses comme ça.
Ah, c'est une grande chose, Bruce Lee.
Ah, Bruce Lee, moi j'ai un respect énorme.
Moi je suis bien d'accord avec vous. Mais vous le disiez à votre retour, qui intervient tout de même, il vous a fallu danser autrement, travailler d'autres appuis, être inventive, avec toujours la douleur, toujours la crainte de que ce soit la dernière fois. Vous dites que c'est ça qui a donné beaucoup de. D'éclat, de relief, de valeur à toutes ces années qui vont suivre, qui vont être longues. Mais qu'est-ce qui vous fait tenir quand même, finalement? C'est vraiment ça, pourquoi vous dansez?
Ce qui me fait tenir, c'est que je vois, mais ça prend du temps, mais je vois que ma technique pour redanser fonctionne. J'ai toujours mal, mais j'arrive en faisant attention à mon poids, en me rééduquant, en fortifiant mes chevilles, mon bassin, mon dos, mes bras, en faisant attention à ce que la tête soit pas trop au devant parce que c'est lourd, en retravaillant la musique. Enfin, c'est toute une liste dont je parle dans le livre. Je réalise que j'arrive à redanser et que personne ne voit que je ne peux pas plier. Donc je me dis, la danse c'est de la magie, je me transforme en magicienne. Personne ne voit, je prends du plaisir. Quand j'ai mal, je préviens quand même Clotilde Vaillée, qui était ma maîtresse de ballet, qui m'a appris tous mes rôles, qui était géniale. Donc je la préviens, donc elle sait. Et je préviens mes trois partenaires en disant, voilà, il y a des moments, il y a des jours, je ne pourrai pas répéter parce que j'ai mal et que je suis obligée, du coup, d'écouter mon corps. Mais comme je vois que ça marche et que la magie opère, je continue et c'est pour ça que je tiens.
Et puis vous évoquez aussi une question dont j'ai plusieurs fois parlé avec des chanteuses lyriques, mais pas avec une danseuse aujourd'hui, c'est la reprise après une grossesse, en l'occurrence après deux grossesses vous concernant. Là encore, il faut quand même beaucoup de détermination, Aurélie Dupont, pour revenir.
Oui, d'autant que c'était donc après mon opération, donc et puis que ma première grossesse, j'ai quand même pris 30 kilos. Donc c'était quand même un peu, je prenais de la place, et perdre après tout ce poids et remuscler, ça a été compliqué. Le gros avantage quand on est danseuse et qu'on tombe enceinte, c'est que bon, moi j'ai pris des formes immédiatement, donc j'ai arrêté la danse très rapidement. Donc ça c'est un avantage, puisqu'on peut vivre sa grossesse plutôt sereinement. Mais la reprise, il faut revenir, et puis il y a l'envie de remonter sur scène. Il y a aussi un contrat qu'on doit remplir et on vous attend. Au-delà du public, la direction vous attend. Donc là, ça a été très compliqué. La première grossesse a été plus compliquée que la deuxième, puisque la deuxième, j'étais un peu briefée, donc j'ai pas fait les mêmes erreurs, j'ai pris que 14 kilos. Mais c'est vrai que la reprise, et j'en parle dans mon livre, et c'était assez drôle à écrire pour le coup, c'est que ça a été un calvaire. D'abord perdre du poids, ensuite remuscler, ensuite faire attention à mon genou, ensuite reprendre les pointes. Enfin, ça a été
un long parcours. Et aujourd'hui, pour conclure cet entretien, Aurélie Dupont, quelle relation vous avez avec votre corps?
Bon, on s'entend bien, ça va.
Apaisé.
Oui, apaisé. Et puis, mais j'étais apaisée bien avant. Hein.
Heureusement.
J'ai pas attendu mon grand âge pour être à l'aise avec mon corps et bien avec. Mais non, tout ça c'est réparé. Et puis, j'ai quand même réfléchi et tout ça est rentré dans l'ordre très bien.
Avec quand même toujours des exercices.
J'ai un peu mal. Je suis un peu pleine d'arthrose, pour vous dire la vérité, ça se voit pas. Mais oui, j'ai un peu mal partout. Mais je m'entraîne un peu. Je fais moins de danse classique, mais je fais un peu de pilates et de yoga pour justement être dans le plaisir, mais aussi pour prendre soin de mon corps qui est un peu abîmé.
Toujours. Je rappelle que ce livre, alors, dont je recommande, on l'a compris, la lecture, n'oublie pas pourquoi tu danses, je ne mets pas dans le bon sens, ce sera pas du tout intelligible, n'oublie pas pourquoi tu danses, vient de paraître aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Aurélie Dupont d'avoir été notre invitée.
Merci à vous.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Le 25 avril prochain, le Portugal fêtera le 50e anniversaire de la révolution des œillets qui mena à la chute de la dictature salazariste. Une date importante pour les Portugais que viendra célébrer Ana Lua Caiano à l'occasion d'un concert collectif à Lisbonne. Cette jeune musicienne vient de publier un premier album intitulé Vou Ficar Neste Quadrado, qui signifie « Je reste sur cette place ». Bien que formée dans une école de jazz, elle a étendu son intérêt à la musique concrète, aux expérimentations façon Björk ou Laurie Anderson, ainsi qu'aux compositeurs contestataires du régime dictatorial comme José Mario Branco ou Zeca Afonso. À la texture électronique de sa musique, elle ajoute des harmonies et des chœurs inspirés de la musique traditionnelle rurale portugaise transmise par voie orale. Si l'accumulation d'emprunts et de références peut faire craindre un projet plus académique que mélodique, Ana Lua Caiano s'en sort haut la main sans pour autant verser dans l'immédiateté de la pop. Son morceau « De cabeça colada ao chão » est notre son du jour.
Que le senhor está ali, está a trabalhar. Leio que Jorda Arques, Trabuquiri. 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 Aquele senhor está ali, está a trabalhar.
De cabeça colada ao chão, saio de casa. Os pés pesados prolongavam-se no piso. Os braços balançavam como um barco. O andar abatido atrasava quem atrás andava.
Animada.
C'était Da Cabeça Colada ao Chão, d'Ana Lua Caiano.
France Culture, le grand tour, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, dernière étape de cette semaine japonaise avec la Villa Kujoyama, programme de résidence porté par l'Institut français et l'Institut français du Japon, avec sa directrice Adèle Frémol. Ce soir, nous allons à Kobe, dans la brasserie de saké Kenbishi, avec son président Monsieur Shirakashi et le plasticien Simon Nikaise, puis direction Kanazawa pour expérimenter un moment de post-résidence dans une maison traditionnelle, car oui, un séjour au Japon semble toujours trop court.
Simon Nikaise, je fais des objets de la sculpture.
Et vous êtes lauréat de la Villa Koyama en 2024. Sur quel projet vous êtes venu ici pour quel type de recherche ?
C'est un projet qui s'appelle la cuve et le ferment, de réfléchir à ce que peut être une cuve de fermentation et aussi une cuve de fermentation mentale. Donc au début, je me suis intéressé au brassage du saké, parce que moi je brasse aussi de la bière dans mon atelier, d'essayer de faire des liens entre la création artistique et la fermentation.
Donc finalement là, vous nous emmenez dans une brasserie de saké, pas seulement ou pas vraiment pour le saké, mais plus pour ce qui contient le saké.
Oui, complètement. Oui.
Bon, bah, allons-y alors. Adèle, on a pris le train depuis Kyoto, on vient d'arriver à Kobe. Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'on se trouve ?
Alors, on se trouve dans les bureaux de la brasserie de saké, qu'on est déjà allé visiter une fois avec Simon. Et celle-ci, c'est en même temps une très grande fabrique qui cherche à conserver un certain nombre de techniques traditionnelles. Notamment, ils ont réintégré un atelier de menuiserie au sein de la fabrique. Ils ont racheté des machines pour produire leurs propres ficelles de paille. Ils ont racheté leurs propres rizières.
Alors, on entre dans la brasserie. Et la première chose que... on peut dire c'est l'odeur, bien sûr, qui est tout autour de nous, une odeur de fermentation et de saké. C'est le tonneau qui sert à cuire le riz à la vapeur. Dans tout le Japon, il n'y a que 10 ou moins de 10 tonneaux qui sont faits avec ce bois-là. Le reste, c'est fait en inox. Quand le riz est cuit dans un tonneau en inox, la partie du dessous, il y aura trop d'eau, donc il va devenir trop mouillé, trop collant, alors que dans le tonneau en bois, ce ne sera pas le cas, donc c'est plus adapté pour la fabrication du saké. Donc en contrôlant la température de la pièce, c'est comme ça qu'on peut produire la bactérie qui va servir à la production.
Donc
cette manière d'ajuster la température en utilisant des tonneaux en bois remplis d'eau chaude, c'est la manière traditionnelle de contrôler la température. Et maintenant au Japon, il n'y a plus que 5 ou 6 lieux qui utilisent cette manière de faire. Et les artisans qui savaient autrefois fabriquer, que ce soit les tonneaux qui servent à ajuster la température ou les tonneaux qu'on a vu tout à l'heure pour cuire le riz, ces artisans aujourd'hui ont disparu et donc l'entreprise fabrique elle-même ses tonneaux.
là, le son qu'on entend, c'est du saké qui coule. C'est ça.
Il est beaucoup plus alcoolisé qu'il sera au final. Et donc ça permet de suivre le goût. Là, c'est vraiment sorti de pressage, mais ce n'est pas, c'est pas le saké qui va être mis en bouteille.
En fait,
le processus de vieillissement dure 3 ans. Et avant de mettre en bouteille, ils ajoutent de l'eau, ce qui va permettre de rendre le goût moins imposant, moins fort, de manière à ce qu'on puisse le boire avec de la nourriture.
Bonjour Adèle.
Bonjour.
On se retrouve aujourd'hui alors dans un autre décor. On est maintenant à Kanazawa et on vient ici parce que une des caractéristiques de la Villa Kujoyama, c'est qu'elle propose pour les lauréats des postes résidences. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est ?
Oui, alors pendant 5 ans après la résidence à la Villa Kujoyama, on accompagne les lauréats de manière différente sur leurs projets, aussi bien en France qu'au Japon ou même dans d'autres endroits du monde.
Est-ce que le but de cette post-résidence-là, c'est quoi ? C'est de poursuivre le travail qu'ils ont mené ici ou d'entretenir les liens qu'ils ont acquis en venant ici en tant que lauréat ?
Alors, à Kanazawa, la post-résidence qu'on développe, c'est justement prolonger un petit peu le séjour au Japon et découvrir un autre Japon, puisque Kyoto, c'est quand même un endroit magnifique, mais très particulier au Japon. Donc, à Kanazawa, il y a d'autres artisans, il y a d'autres pratiques, il y a une autre histoire aussi. Donc, on a un double partenariat avec le College of Art de Kanazawa et avec la Fondation Mitanni, qui permet à des lauréats de prolonger leur séjour au Japon d'un mois, après la villa à Kanazawa, dans cette machiya.
Alors là, on y est dans cette machiya, c'est une magnifique maison traditionnelle. Est-ce que vous pourriez nous dire qui nous allons rencontrer ?
Oui, nous allons rencontrer Monsieur Aiba, qui est le président de la Fondation Mitanni, qui finance l'intégralité de ce programme dans cette machiya, en collaboration avec le College of Art de Kanazawa.
Donc je m'appelle Tatsuya Aiba, je suis directeur exécutif et conseiller spécial de l'entreprise Mitanni Sangyo. Et je travaille également pour la Fondation Mitanni, qui est donc une fondation qui vise à la préservation de la culture et également la diffusion d'informations en lien avec la culture. Donc quand nous avons démarré ce programme de post-résidence avec la Villa Kujoyama, l'objectif c'était vraiment de réfléchir à la manière dont on pouvait développer des liens entre les artistes et la population locale. Donc là en l'occurrence, à l'époque où nous avons commencé ce programme, la machiya et l'université étant très proches, j'ai pensé que c'était une distance idéale pour renforcer les liens entre les artistes et les professeurs et les élèves de l'Université des Arts de Kanazawa.
Puisqu'on se dirige maintenant vers la machiya, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur Kanazawa, sur cette ville, en quoi est-elle liée aux arts et à l'artisanat ?
Donc, tout d'abord, Kanazawa a une histoire très riche. Pendant 300 ans, elle a été dirigée par une famille de daimyo. Donc, daimyo, ce sont les seigneurs de l'époque Edo, de l'époque féodale du Japon. Et c'est à ce moment-là que l'artisanat s'est beaucoup développé à Kanazawa.
Alors là, on est devant cette machiya. C'est une grande maison, en effet, tout en bois. On voit déjà ces portes coulissantes qui sont à la fois au rez-de-chaussée, on en a deux, et puis à l'étage également. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous décrire, est-ce que c'est vraiment une architecture, là on est devant une machiya traditionnelle, est-ce que vous pourriez nous dire en deux mots quelles sont les bases de l'architecture de ces machiyas ?
Une des premières spécificités des machiyas de Kanazawa, c'est le fait qu'il y a deux entrées séparées. Donc on se trouve actuellement devant la machiya et on peut voir du côté droit la grande entrée entre guillemets principale, c'est l'entrée qui sert à accueillir les invités, et à gauche la plus petite entrée qui est l'entrée pour les personnes qui vivent dans la machiya.
Et on enlève les chaussures, bien sûr.
Les visiteurs arrivent par cette entrée principale. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dès l'entrée, quand on ouvre toutes les portes, on peut voir le jardin tout au bout. Donc, comme un long couloir qui mène jusqu'au jardin. Et ça fait partie de l'accueil. La notion d'accueil en fait des visiteurs dans les machiya de Kanazawa. Pour les Japonais, lorsque on se souvient de quelque chose, ce n'est pas le mois ou la date dont on va se souvenir, c'est vraiment la saison. Donc, par exemple, aujourd'hui, je vous accueille, même si je me rappelle de notre rencontre dans 3 ans, par exemple. Je vais me rappeler du fait que je vous ai accueilli, je vous ai rencontré au début du printemps, lorsque les cerisiers ont commencé à fleurir.
Cette semaine, auprès des lauréats de la Villa Kujoyama, démontre qu'il ne s'agit pas simplement d'envoyer des artistes français humer l'air de Kyoto, mais bien d'entretenir des liens, de favoriser des échanges et de créer, au fil des années, une réelle collaboration artistique et humaine franco-japonaise.
Suite du Grand Tour, lundi, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Lundi, retour en France, je serai à l'abbaye royale de Fontevraud.
Merci Marie, à lundi. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Roberti.